France Culture.
Cette semaine, entendez-vous, l'écho se met au rythme du Festival de Cannes, dont la 78e édition débutera demain, car le cinéma, c'est aussi du travail, et donc tout un système économique, car qui dit travail dit organisation, hiérarchie, division aussi des tâches, une réalité à laquelle sont confrontés toutes celles et tous ceux qui fabriquent les films, mais toutes et tous ne sont pas reconnus comme tels, c'est tout l'enjeu symbolique, certes, mais aussi éminemment économique de la reconnaissance du statut d'auteur, écriture du scénario, direction des acteurs et des actrices, recherche de financement, c'est tout un arsenal de compétences et de métiers qui donne vie à un film, soit une véritable industrie. Une industrie qui a donné chair à 231 films d'initiative française en 2024. Un aspect très matériel de la production donc, qui ne va pas forcément de soi et qui pourtant est essentiel. C'est ce que rappelait Marcos Uzal, rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, dans l'éditorial du numéro de novembre dernier intitulé « Produire en France ». Pourquoi une revue critique comme Les Cahiers s'est-elle si régulièrement intéressée à l'état de la production en France? Précisément parce que ce n'est pas une simple question de cuisine que les films transcendraient. Ceux-ci sont au contraire façonnés par la manière dont ils ont été produits, à tout niveau et à chaque étape. Et l'on sait bien comment, depuis toujours, l'économie esthétique d'un film est inséparable de son économie financière. Ici, créateurs solitaires et producteurs au sein du système parlent depuis un même angle, celui de la pratique où les conditions de la fabrication d'une œuvre définissent sa forme. Alors comment le système de financement du cinéma français conçoit-il la façon dont sont conçus les films et surtout la façon dont travaillent ces acteurs dans tous les sens du terme? Quelles professions réclament, voire se disputent la reconnaissance en tant qu'auteur d'un film et au nom de quoi? Et pour un auteur, combien de travailleurs? C'est sur toutes ces questions que nous allons nous pencher dans cette émission programmée et préparée par Tina Young, réalisée par Françoise Lefloc et mise en onde par Alex Dang. Aujourd'hui avec nous en direct et jusqu'à 15h, deux sociologues, Jérôme Pacou, docteur de l'EHESS, chercheur au Centre européen de sociologie et de sciences politiques, auteur d'un ouvrage intitulé « Qu'est-ce qu'un auteur de cinéma ?» Art, pouvoir et division du travail, paru aux éditions du CNRS en février de cette année. Également avec nous, Olivier Alexandre, chargé de recherche au CNRS et directeur adjoint du Centre Internet et Société, auteur de « La règle de l'exception, écologie du cinéma français », un ouvrage paru aux éditions de l'EHESS en 2019. On peut également citer « La Sainte famille des Cahiers du cinéma, puisque je l'ai cité à l'instant. C'était aux éditions Vrin en 2018. Alors qui est l'auteur d'un film et qui en crée la valeur à la fois artistique et économique? C'est toute la question que nous posons aujourd'hui et qui s'inscrit dans la continuité d'un débat entamé en février 1946 sur la chaîne nationale. Le réalisateur Marcel Lherbier et les scénaristes Henri Janson et Pierre Laroche s'opposaient à cette occasion leur point de vue.
Avant-guerre, le cinéma était sur le plan économique la première industrie des États-Unis. Aujourd'hui, en France, l'industrie du film est appelée à jouer un rôle de premier plan dans le redressement de notre économie. Or, plus que n'importe quel autre pays, nous disposons du capital intellectuel nécessaire. Et comme le côté artistique ne peut être séparé de l'aspect commercial du problème, nous avons cru opportun d'ouvrir ce soir un débat sur ce thème. Qui est l'auteur d'un film ?
Jusqu'à cet an dernier, ça remonte quand même à une quinzaine d'années, il n'y avait aucune difficulté dans aucun secteur du public pour reconnaître que l'auteur d'un film était son réalisateur. Je parle évidemment du temps du film muet. De ce temps-là, le créateur des images d'un film était vraiment l'auteur du film. Depuis quelque temps, on a eu une tendance dans une certaine partie de l'opinion ou de la presse ou de la critique à croire ou à faire croire que l'auteur littéraire du scénario ou du dialogue pouvait être éventuellement considéré comme l'auteur du film. Ça voudrait dire que le réalisateur des images du film, c'est-à-dire celui qui met en œuvre tout le film sous sa forme plastique et figurative, ne serait pas un créateur. Or, s'il est un créateur, il est de toute évidence un auteur.
Qu'est-ce que tu en penses, Henri ?
Moi, je pense que c'est une question qui ne se pose pas. Pour moi, l'auteur d'un film est le monsieur qui, avec un porte-plume, un encrier et une rame du papier, écrit une histoire, en écrit le dialogue. Un scénario est une œuvre qui existe en soi, qui peut être publiée même. Le cinéma, le metteur en scène, n'est-ce pas, donne à cette œuvre un aspect différent de l'aspect qu'elle a quand, lorsqu'elle est publiée, lorsque c'est un ouvrage. Mais en soi, un scénario existe déjà. Donc, l'auteur du film est l'auteur du scénario. On peut faire un scénario sans tourner le film, mais on ne peut pas faire un film sans scénario, j'imagine.
Oui, et en plus, on peut confier un scénario à 4 ou 5 metteurs en scène différents, et ce scénario aura 4 ou 5 valeurs plastiques différentes.
Oui, d'accord, mais si vous me permettez, Pierre Laroche, on a peut-être mal posé la question. Voulez-vous que nous la posions sur sous l'aspect suivant? Qui est-ce qui, dans un film, porte la principale responsabilité ou de son échec ou de sa réussite?
D'après ce que vient de dire notre camarade Janson, il suffirait de faire un bon scénario pour avoir un bon film.
Tout est une question d'espèce, bien entendu.
Enfin, il n'y a plus de chance de faire un bon film avec un bon scénario qu'avec un mauvais.
Voilà. Oui, mais il ne suffit pas d'avoir un bon scénario pour faire un bon film. Non, il y a donc une part d'intervention, une part de création supplémentaire.
Ah, mais ça, nous ne discutons pas, ça.
Écoutez, Henri Janson, il y aurait peut-être une chose qui serait intéressante à savoir aussi. C'est pourquoi la question se pose maintenant, alors que, comme l'indiquait Marcel Lherbier, elle ne se posait pas il y a 20 ans.
Bah, c'est un peu de la faute de tout le monde. Il y a de notre faute à Henri Janson et à tous les journalistes qui, pendant 15 ou 20 ans, ont dit un film de. Et un film de, à mon avis, c'est une erreur.
Jérôme Pacouret, bonjour.
Bonjour.
Alors, une première question pour commencer. Pourquoi la question de savoir qui est l'auteur d'un film qui agitait ce fameux débat de 1946 agite-t-elle le milieu depuis si longtemps? Qu'est-ce qui est en jeu au juste?
Bien. Alors d'abord, je vous remercie pour cette excellente archive qui illustre vraiment bien le cœur de mon livre, c'est-à-dire les luttes de définition des auteurs de cinéma, donc qui ont commencé très tôt avec des enjeux, comme vous l'avez rappelé, qui sont à la fois artistiques mais aussi économiques. Donc alors aujourd'hui, le professionnel qui est le plus souvent reconnu comme l'auteur du film, que ce soit par des critiques, soit au sein des festivals, par une assez large fraction du public, c'est le réalisateur ou la réalisatrice ou cinéaste. Mais ce statut d'auteur du metteur en scène, il a une histoire, il a été très disputé. On peut lire ou entendre souvent que ce serait la politique des auteurs des cahiers du cinéma, puis les réalisateurs de la nouvelle vague qui auraient en quelque sorte inventé le statut d'auteur du réalisateur. En réalité, la définition de l'auteur de film, la question de savoir qui est l'auteur du film, s'est posée très tôt, dès les années 1900-1910. Peu après que les premiers films ont commencé à être valorisés pour des raisons à la fois économiques et artistiques, comme les œuvres d'écrivains adaptés au cinéma ou auteurs du scénario.
Donc si je vous comprends bien, Jérôme Pacouret, c'est à partir du moment où on se rend compte qu'il y a une forme d'industrie qui peut naître aussi de cette filière artistique que se pose la question. En fait, c'est à partir du moment où il y a des enjeux financiers qui rentrent en cause.
Tout à fait. Dans la seconde moitié des années 1900, des sociétés de production considèrent qu'elles peuvent capitaliser en quelque sorte sur des noms d'auteurs déjà reconnus dans le champ littéraire pour à la fois valoriser leur production sur différents plans, pour attirer un public qui connaîtrait les noms d'écrivains, pour légitimer le cinéma d'un point de vue moral à une époque où la censure est encore très forte, ou potentiellement très forte. Donc les enjeux économiques de valorisation des auteurs sont là dès l'origine.
Olivier Alexandre, bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Est-ce que derrière la question de savoir qui est l'auteur véritable, on va dire, d'un film de cinéma, c'est finalement la question de savoir qui est responsable soit de son succès, soit de son échec qui se pose, et donc quelque part de celui ou celle, bon, en l'occurrence c'est beaucoup plus celui vu l'époque dont on parle, mais celui qui donc doit en assumer les conséquences ou en récolter les fruits, alors que ce soit très symbolique mais aussi financier.
Je rejoins la célébration de cette archive que je connaissais pas, qui est assez drôle, hein, c'est quasiment pagnolesque d'ailleurs, parce qu'on a l'impression à les écouter qu'il y aurait finalement deux professionnels, soit le réalisateur, soit le scénariste qui contribuerait à la réalisation d'un film, et on le sait, enfin n'importe qui s'est rendu dans une salle de cinéma et qui a regardé le générique, s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de monde, parfois beaucoup de monde si on y reste jusqu'au bout. Elle est intéressante aussi parce que c'est un moment très particulier, hein, le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est un moment de fondation refondation institutionnelle pour le cinéma. C'est avant-guerre la création du Festival de Cannes, la mise en place du CNC et la mise en place de la taxe spéciale additionnelle, hein, 10% sur chaque billet qui seront payés, qui est un levier absolument fondamental et fondateur pour le cinéma français dans un contexte où effectivement le cinéma, enfin les États États-Unis utilise son cinéma comme un moyen d'influence, un moyen d'enrichissement. Et c'est même Joseph Nye qui vient de nous quitter, qui vient de nous décéder, qui l'a théorisé à travers la notion de soft power.
Ce qui est intéressant, et vous le disiez, c'est qu'effectivement, il y a un peu deux acteurs qui se font face dans ce débat de 1946. Il y a effectivement celui qui écrit, donc le scénariste en soi, et puis il y a au-delà du scénariste, il y a évidemment le réalisateur, Jérôme Pacouret. On pourrait se dire qu'effectivement, c'est un peu réducteur. Alors, non seulement si on prend en compte le très large éventail de toutes les personnes qui travaillent sur un plateau de cinéma, mais même si on se pose la question uniquement de qui peut en revendiquer le fait d'être l'auteur d'un film, aujourd'hui, le débat ne se situe plus uniquement entre ces deux pôles-là, entre scénariste et réalisateur. On peut au moins rajouter le producteur. Est-ce que c'est plutôt un triangle donc aujourd'hui qui symboliserait ce débat-là, ou est-ce que c'est encore plus large que ça ?
Bien. Alors, comme je le disais tout à l'heure, dès les années 10, émergent des luttes de définition des auteurs, dont les principaux protagonistes sont les scénaristes et les metteurs en scène et leurs représentants professionnels, mais aussi les producteurs. Donc les porte-paroles de ces trois professions se sont beaucoup disputés le statut d'auteur en revendiquant chacun, en défendant chacun une vision particulière à la fois des films, de la division du travail et donc de la responsabilité en cas de succès ou d'échec, pour rebondir sur ce que vous disiez. En comme on l'a très bien entendu dans l'archive, en gros, des scénaristes comme Henri Janson ont fait valoir le rôle absolument central du scénario dans la fabrique du film et dans sa valeur finale, tandis que des metteurs en scène comme à l'époque René Clair, Germaine Dulac ont beaucoup fait valoir la qualité d'art visuel du cinéma en se comparant à des peintres, à des compositeurs, et enfin des producteurs qui, eux, se valorisaient davantage comme des entrepreneurs, mais aussi comme des chefs d'orchestre, avec l'idée que la coordination des différents professionnels investis dans cet art collectif était une tâche absolument centrale, nécessaire et à source de la valeur des films.
Donc, dès le départ, on a ce triptyque-là. Mm-hmm. Alors, c'est intéressant que vous disiez que les producteurs se concevaient eux-mêmes plus sur l'aspect commercial et en tant que chef d'orchestre, mais ils ont été aussi relégués à ce statut-là. On va voir quels enjeux de pouvoir, aussi de rapport de force cela implique. Olivier Alexandre, vous allez presque plus loin aussi dans votre ouvrage. Vous parlez d'une sanctuarisation du cinéma qui, en France, a profité aux réalisateurs, à la différence de l'Amérique du Nord, bastion des producteurs. On retrouve là ces acteurs-là, ce trio-là aussi, avec cette polarisation entre producteurs et réalisateurs. Est-ce qu'il faut donner raison à Henri Janson, qu'on entendait à l'instant ? C'est la faute des journalistes qui ont donné beaucoup, voire trop d'importance à l'auteur et donc au réalisateur.
Alors, c'est une action collective, mais effectivement, je pense que dans le sillage de ce qu'a dit Jérôme, il faut essayer de prendre la problématique en précédant un petit peu l'archive qu'on vient d'écouter et en débordant aussi, c'est-à-dire de regarder ce qui s'est passé dans d'autres pays et puis essayer aussi de demander comment elle a évolué. Le cinéma, il a hérité effectivement d'une tradition juridique qui était déjà un peu constituée, et notamment à travers les gens de lettres, hein, Beaumarchais avec son initiative pour faire reconnaître le droit des auteurs sur leur création, qui a été enregistrée en 1791. L'autre grand nom de cette histoire, c'est Victor Hugo, qui a fait inscrire d'une certaine façon ce droit, qu'il a sanctuarisé, pour reprendre l'expression, avec la Convention de Berne en 1889. Et le cinéma s'inscrit dans cette suite-là, avec à la fois un travail d'importation. Alors, symbolique, effectivement, c'est la nouvelle vague et la première vague, hein, dont on parle moins, celle des années 1910-1920. C'est aussi un travail institutionnel important, avec différents représentants de corps de métier, différentes institutions aussi, avec des positionnements qui allaient du Parti communiste, qui avait un poids très important, non seulement au Parlement, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi dans les corps de métier techniques, et qui ont œuvré, hein, dans ce jeu de politique, d'une certaine façon professionnelle. Et puis, c'est la mise en place aussi d'institutions transversales qui ont eu pour but quand même premier de défendre le cinéma en tant qu'industrie, d'industrie nationale. Et c'est tout le sens de la mission du Centre National de la Cinématographie qui, au-delà et à travers les différentes vagues d'innovation, de concurrence médiatique auquel le cinéma a toujours été confronté depuis sa création, n'a eu de cesse, ou a eu pour mission, ou objectif du moins, d'essayer de protéger ou de mettre en place un certain nombre d'obligations d'investissement, de préservation du droit et du cinéma français, dont effectivement, au fil des années, les cinéastes se sont retrouvés au cœur.
Alors là, Jérôme Pacouret, on a beaucoup d'éléments qu'il faut décortiquer. Peut-être que ma première question, pour bien comprendre aussi le jeu des acteurs en place à cette époque-là, donc là je parle avant la Seconde Guerre mondiale, dans quelle mesure il s'agissait effectivement d'acteurs qui défendaient aussi leurs droits à chaque fois, dans quelle mesure il y avait une forme de corporatisme où chaque corps de métier s'identifiait en tant que tel et entendait défendre aussi une position et de fait il y avait une forme de rapport de force entre chaque corps de métier. Est-ce que c'est ainsi que l'espace s'est configuré?
Eh bien, alors, pour à la fois répondre à votre question et rebondir sur un propos très important d'Olivier Alexandre qui a évoqué la question du droit d'auteur. Les luttes de définition des auteurs de films, donc qui opposaient les scénaristes, les réalisateurs et producteurs, comme je l'ai expliqué, avaient des enjeux variés. À la fois le contrôle de la fabrication des films, que se disputaient ces professionnels sur les plateaux de tournage, parfois en rivalité avec les acteurs stars de leur temps. Mais il y avait aussi des enjeux d'appropriation des différentes formes de capital générées par l'activité cinématographique. Le capital symbolique, puisque les luttes de définition des auteurs avaient pour enjeu, et plus généralement la définition des auteurs ont pour enjeu la reconnaissance, le fait d'être reconnu comme auteur de film et d'en tirer différents profits symboliques, de reconnaissance, de visibilité médiatique, etc. Mais aussi l'appropriation des revenus, du capital économique généré par les films, puisque dans le cadre des négociations autour du droit d'auteur et du copyright en France et aux États-Unis, un des enjeux de ces luttes de définition des auteurs était de savoir qui avait droit à une part des recettes et profits générés par les films, qui contrôlait l'exploitation économique des films. Donc c'était aussi des luttes qui avaient des enjeux très proches d'autres luttes corporatives ou syndicales qui portent sur le partage de l'argent généré par une activité collective. Et ces luttes, elles ont été arbitrées en quelque sorte du fait du développement d'un certain nombre d'institutions qu'a évoqué Olivier Alexandre. À l'origine, l'émergence d'une critique cinématographique a été tout à fait décisive dans la valorisation des réalisateurs par comparaison aux autres prétendants au statut d'auteur de l'époque.
Mais voilà, dans le sens où ça a alimenté, on pourrait se dire que l'émergence de ce corps-là, qu'est la critique, a pu renforcer la logique de capital très symbolique aussi du nom de l'auteur. On pourrait se dire que ça, l'un a alimenté l'autre finalement.
Tout à fait. Alors, dès l'origine, en fait, la critique n'a pas des fonctions seulement artistiques, elle a aussi des fonctions économiques, de valorisation des films. Et dans un contexte où l'appropriation des profits était très disputée entre plusieurs groupes professionnels, la critique a été décisive dans le fait de prendre partie, en quelque sorte, pour les metteurs en scène, bien plus que pour les scénaristes ou pour les producteurs, mais même s'il y a eu, comment dire, aussi des divisions entre critiques sur qui était l'auteur véritable d'un film.
C'est intéressant, Jérôme Pacouret, ça veut dire que c'est vraiment autour de cette question de qui ramasse les recettes, finalement, aussi, c'est vraiment sur des questions, des enjeux financiers que s'est cristallisé, on va dire, le débat, plus que symbolique, plus que revendiquer la créativité, revendiquer aussi la signature dans l'écriture d'un film.
Bien, je hiérarchiserais pas entre ces deux enjeux qui étaient vraiment très étroitement mêlés. C'est aussi une certaine idée du réalisateur ou du scénariste comme auteur qui, aux yeux de beaucoup de professionnels, justifie le fait qu'ils soient les propriétaires au sens économique de l'œuvre. Et à l'inverse, certaines revendications économiques très intéressées ont pu motiver des grands discours sur l'art et la contribution de tel ou tel professionnel. Donc les deux étaient très mêlés et très liés au droit aussi, puisque c'est au-delà des critiques, sont aussi des juristes qui ont eu la responsabilité un peu de trancher ces luttes.
Vous avez mentionné la présence de syndicats, Jérôme Pacouret. Dès 1917 est créée la Société des auteurs de films, par exemple. Mmh. Aux États-Unis, c'est un peu différent. C'est plutôt sous la forme de guildes, en général. Mmh. Ou alors, c'est une traduction de l'anglais au français. Très concrètement, quel est le rapport au syndicat de ces différents corps de métier? Est-ce que c'est la forme de la société qui est davantage privilégiée? Qu'est-ce que ça dit aussi de la façon dont ces derniers entendent être représentés et faire valoir leurs intérêts?
Bien, alors, il y a des différences d'organisation syndicale et de statut des organisations professionnelles en France et aux États-Unis qui sont liées à l'histoire du droit d'auteur, du copyright et du droit du travail, aux formes spécifiques de cette histoire dans les deux pays, davantage qu'aux revendications même des professionnels. En France, donc vous avez évoqué la société des auteurs de films, les réalisateurs sont aujourd'hui représentés notamment par des associations, comme la société des réalisateurs, réalisatrices de films. Mais les acteurs, les groupes d'intérêt les plus puissants des auteurs restent les sociétés d'auteurs, qui, comme la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, qui gèrent les droits d'auteur des réalisateurs et des scénaristes. Et tandis qu'aux États-Unis, ce sont effectivement des guildes qui sont développées plutôt dans le cadre du droit du travail, mais qui ont aussi des fonctions de gestion des rémunérations des réalisateurs ou des scénaristes qui jouent ce rôle à la fois de défense de la profession et de gestion de leurs intérêts matériels.
Et ce qui est intéressant, et ce sera le dernier exemple très, très historique aussi, puis il y a un dernier exemple américain aussi, c'est que ces guildes-là se font presque une guerre aussi par rapport notamment à l'attribution de ces droits d'auteur. Et il y a ce cas assez emblématique. En 1968, vous l'évoquez dans votre ouvrage, le Directors Guild of America, qui a été fondé en 1936, donc on revient là à ces origines-là, s'est opposé à la guilde des scénaristes en l'empêchant d'obtenir le monopole du possessory credit, c'est-à-dire l'expression un film 2, la fameuse. Très concrètement, Jérôme Pacouré, comment ils ont réussi à obtenir ce droit-là, sur la base de quels arguments ?
Bien. C'est un cas, une dispute intéressante parce qu'elle montre bien que ces organisations professionnelles, que ce soit les sociétés d'auteurs en France ou les guildes aux États-Unis, elles défendent des revendications qui ne sont pas purement économiques mais qui ont aussi pour enjeu la reconnaissance, la valorisation des métiers et différents droits créatifs ou artistiques comme le droit moral en France qui permet de contrôler le montage des films ou le droit au director's cut aux États-Unis. La guilde des réalisateurs, à ce moment-là, a pu, avec succès, empêcher que les scénaristes obtiennent, comme ils le souhaitaient, le monopole de l'expression « un film deux » dans les génériques, c'est à travers ce que la guilde des réalisateurs aime valoriser comme la seule grève de son histoire, et une grève qui aurait duré une heure ou une journée, je me rappelle plus exactement, mais une grève très courte. Mais c'est aussi parce que elle avait un véritable pouvoir de négociation vis-à-vis des producteurs, et aussi parce que les réalisateurs jouissaient déjà d'une forte reconnaissance, y compris à Hollywood, où loin d'être complètement subordonnés aux producteurs ou à la puissance du scénario et de l'écriture, jouissaient donc d'une forte reconnaissance professionnelle déjà.
Olivier Alexandre, on en arrive là aux subtilités françaises, on va dire aussi la stratification de ce milieu. On pourrait croire, vu tout ce qu'on vient de dire, qu'il y a des corps de métier clairement identifiés et qui se font face à travers des syndicats, des sociétés ou des guildes. Or, vous dites que ce n'est pas exactement le cas. On n'a pas la production qui fait face à l'exploitation, à la critique ou à la réalisation. C'est plutôt une stratification qui se fait en fonction de la proximité ou de l'éloignement vis-à-vis d'un noyau juridique et financier situé au cœur du cinéma français. Est-ce que c'est aussi comme ça qu'il faut comprendre le paysage, que tout n'est pas résumable en fonction du corps de métier auquel on appartient ?
Non, mais déjà, c'est vrai qu'on n'arrête pas de comparer cinéma français, cinéma américain. Il y a quand même énormément de différences historiques, ça vient d'être rappelé, mais aussi économiques. Hein. Le revenu d'Hollywood, c'est 50-60 milliards. Le cinéma français, son économie, c'est 1,5 milliard. Le cinéma français, c'est une toute petite industrie culturelle, si on regarde la chaîne alimentaire des industries culturelles, et en même temps elle a une aura, elle joue à la manière d'une caisse de résonance de manière extrêmement puissante, hein, qu'on pense à MeToo, c'est-à-dire que le cinéma est capable de faire entendre des causes que d'autres industries font pas forcément entendre, et alors même que ces industries peuvent être plus puissantes. C'est-à-dire le MeToo dans le jeu vidéo, par exemple, a eu moins d'écho, dans la musique, même chose, ou dans la littérature, même chose, alors que c'est pas des industries qui sont beaucoup plus exemplaires de ce point de vue-là.
Alors qu'elles pèsent plus lourd financièrement.
Exactement. Donc, Il y a quelque chose d'un peu mystérieux, et peut-être que ce mystère, il se noue autour de la figure de l'auteur, pas forcément, de notre rapport aussi très personnel au cinéma, hein, c'est-à-dire que on grandit avec des films, dans tous les sens du terme, on utilise des films, et du coup, les films sont un peu à tout le monde, hein, c'est ce qu'on lit chez le coiffeur, notamment des revues People qui parlent des cinéastes et des actrices. Et la spécificité du cinéma français qui est pas juste une histoire un peu gauloise, hein, d'une certaine façon, parce que de fait c'est un modèle qui a fait exister, qui a fait perdurer le cinéma français, là où quand on le compare à ce qui s'est passé dans d'autres pays européen, alors même que on a eu des très grandes cinématographies en Italie, en Allemagne, en Grande-Bretagne, et on peut aller jusqu'à l'URSS, bah, toutes ces grandes cinématographies, d'une certaine façon, ont pas disparu, mais elles ont muté et elles ont connu une intégration très forte via l'audiovisuel. Un des acteurs de cette intégration en Italie, c'est Berlusconi, hein, qui a fait fortune de cette manière-là, en captant des talents et une industrie, un tissu économique en Italie pour faire des téléfilms ou des séries à très bas coût dans les années 80 et 90. Donc, pour revenir à la question de l'auteur, effectivement, l'une des grandes différences qui sépare les États-Unis de la France, c'est que en France, le cinéaste, la cinéaste, est copropriétaire du film. Alors que aux États-Unis, d'une certaine façon, le ou la cinéaste est envisagé comme un travailleur ou une travailleuse comme une autre, et celui et celle ou celle qui a le titre de propriété sur le film, c'est le producteur.
C'est celui qui a
mis l'argent sur la table, d'une certaine façon. Et l'autre particularité de notre système, c'est que les producteurs français arrivent pas forcément avec de l'argent sur la table, hein, et du moins pas leur argent personnel, et que eux, ils ont plutôt un rôle d'intermédiaire qui revient à aller chercher de l'argent, pas à une adresse unique d'ailleurs, auprès de différents guichets, hein, c'est l'expression consacrée dans le milieu, et ces guichets peuvent être extrêmement nombreux. Ça commence avec le CNC, ça peut aller jusqu'au Sofica, en passant par les régions qui ont leurs propres antennes maintenant de production, et à travers tout un tas d'autres guichets qui sont les grandes chaînes de télévision, et jusqu'aux plateformes actuellement.
Jérôme Pacouret, vous souhaitiez réagir?
Oui. Juste pour rebondir et peut-être nuancer un petit peu ce que vient de dire Olivier Alexandre, je suis tout à fait d'accord qu'il y a des différences fondamentales, disons, dans les économies du cinéma français-américain, et qu'il est intéressant de les comparer. Et en même temps, ce type de comparaison, il occulte parfois la grande diversité des logiques de production au sein de chaque État, et des points communs aussi qu'on peut observer entre les deux pays. Ce que j'essaie de défendre un peu dans mon livre, c'est que plutôt que comparer le cinéma français au cinéma américain, ce qui revient souvent à comparer Hollywood et le cinéma grand public américain avec ce qu'on appelle le cinéma d'auteur en France, on gagne à voir les parentés en termes de logique de financement, de logique de production entre le cinéma, ce qu'on appelle le cinéma indépendant aux États-Unis, et le cinéma d'auteur français, qui partagent de nombreux points communs, et aussi entre les cinémas grand public de France et des États-Unis. Et je pense que les deux démarches sont pas du tout incompatibles, et qu'on peut pratiquer ces deux types de comparaisons pour bien comprendre un peu les logiques de financement et de fabrication des films.
Donc, si je vous comprends bien, Jérôme Pacouré, il ne faudrait pas mettre à distance les États-Unis ou le mode de fonctionnement du cinéma américain sous prétexte que lui ressemblerait davantage à une véritable industrie, et donc prendrait à bras le corps tous les enjeux financiers et économiques et les assumerait comme tels, et de fait reléguer la France à quelque chose, enfin, un cinéma qui aurait voulu faire de la question de l'argent un impensé, ou en tout cas une chose qui n'a pas vraiment droit de citer, on va dire, dans le processus créatif cinématographique.
Tout à fait, quand on pratique ce type de comparaison, un peu, qui est très courante, hein, qui fait partie de la vision du cinéma, de beaucoup de professionnels, etc., on a tendance un peu à simplifier les mondes du cinéma de chaque pays. Et pour vous donner un petit peu un exemple de ça, il ne faut pas oublier que le cinéma américain, c'est évidemment Hollywood, c'est aussi un monde du cinéma où le cinéma expérimental est peut-être plus institutionnalisé qu'en France, plus présent dans les écoles de cinéma, et c'est une forme de cinéma qui, elle, s'oppose catégoriquement aux logiques économiques et financières d'Hollywood, bien plus que le cinéma d'auteur français ou le cinéma indépendant, par exemple.
Olivier Alexandre, vous diriez tout de même que le cinéma français s'empare de la question de l'argent frontalement. Est-ce qu'il y a une forme d'impensé que malgré tout vis-à-vis de ces questions très matérielles des conditions de production aussi?
Non, mais de toute façon, nos deux pays ne se sont pas construits du tout de la même façon relativement à la question du marché, relativement à la question de l'argent, relativement à la question de la culture. Ça a été beaucoup dit sur deux ou trois siècles, et pour le simplifier d'une formule, l'argent est aux États-Unis, ce que la culture est à la France, d'une certaine façon, et donc on a un rapport très 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 différent par rapport à ça. Maintenant, sur les jeux d'opposition, il y a un certain nombre d'économistes du cinéma hollywoodien qui ont bien montré. Enfin, plusieurs choses. D'une part, que la notion de studio, elle était devenue très métaphorique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire du cinéma, c'est produire dans le monde entier, pour des raisons y compris de conquête de marché. Et le deuxième point, c'est que ces studios travaillent de manière continue avec des acteurs indépendants, intégrés. Il y a une espèce comme ça de remontée de cascade, hein, comme les saumons remontent les cascades pour arriver jusqu'à Hollywood. Et alors même que les discours mettent en opposition ces différents univers. Et vous savez, comme ça, des exemple très très contre-intuitif. Par exemple, le premier Twilight est une production d'un studio indépendant avant d'avoir été racheté par un très gros studio. Ou encore le cinéma de Gus Van Sant, qui est présenté comme la quintessence du cinéma indépendant et même de l'esprit de l'indépendance, a été produit par des studios de longue date.
Ce qui ne nous a pas empêché de connaître un énorme succès.
Bien sûr. Et alors, la question du succès aussi, comment dire, à Hollywood, si vous faites un film à gros budget, et que c'est un échec, vous allez avoir beaucoup de mal à rebondir. Alors qu'au cinéma, il y a tout un tas de dispositifs qui, d'une certaine façon, alors je le dis avec beaucoup de pincettes et de mesures, mais dissocient les performances sur le marché direct du film avec son image et la capacité d'un cinéaste, et encore plus, d'une certaine façon, de son producteur ou de sa productrice, et de son distributeur et de sa distributrice, à exister sur le marché durablement. Parce que la question, c'est vraiment celle-ci, dans le cinéma français, c'est exister durablement dans ce secteur-là. Et pour ça, effectivement, il faut être associé avec des cinéastes et des cinéastes, même si ces cinéastes et cinéastes font un, deux ou trois films.
C'est ce que j'allais vous dire, Olivier Alexandre, ça renforce quand même largement la tendance, la problématique, si on veut, aussi de l'autorisation, enfin en tout cas du fait que l'auteur soit au cœur du processus financier aussi.
Oui, mais la manière dont moi j'avais essayé de le décrire, parce que ça correspondait à ce que je voyais, c'était que il y a ce paradoxe constitué du cinéma français, que à la fois en termes de droits, de symboles, le cinéaste est au centre de la machine, alors même que c'est une position extrêmement vulnérable, parce que, ne serait-ce que statistiquement, c'est beaucoup plus dur de faire son deuxième film que son premier film, c'est beaucoup plus dur de faire son troisième film que son deuxième film, c'est beaucoup plus dur de faire son... etc., etc. Et le paradoxe là-dedans, c'est qu'on en a parlé tout à l'heure, la politique des auteurs, la nouvelle vague, etc., se nourrissait beaucoup de références à des auteurs étrangers, des cinéastes étrangers, qui étaient un cinéma de maître, d'une certaine façon, des cinéastes hollywoodiens, qui venaient bien souvent d'Europe, hein, Hitchcock, les maîtres de l'expressionnisme allemand également, qui étaient des cinéastes, qui ont évolué dans une économie et une industrie extrêmement différentes de ce qu'on a mis en place en France, et qui étaient des gens qui ont réalisé parfois 20, 30, 40, 50, jusqu'à 100 films. Et à ma connaissance, on a très peu de cas de figure en France, voire pas du tout.
Effectivement, sur le papier, ça semble relativement rare. Jérôme Pacouré, on a commencé à effleurer ce moment crucial, parce qu'on a commencé à parler de la façon dont se structure finalement ce milieu depuis le tout début du XXe siècle. Il y a un tournant que vous identifiez tous les deux, mais de façon un peu différente dans vos ouvrages respectifs, c'est ce tournant des années 60. La Société des réalisateurs de films, par exemple, est créée en 1968 pour défendre le droit de propriété du réalisateur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui est remis en cause dans cette toute fin des années 60? Pourquoi les réalisateurs sont-ils sur la défensive à ce moment-là?
Bien, alors, il faut, pour comprendre la création de la Société des réalisateurs de films, il faut remonter quelques semaines plus tôt aux états généraux du cinéma français, quand donc un certain nombre d'étudiants en cinéma, professionnels du cinéma, notamment des aspirants ou de jeunes professionnels du cinéma, remettent en cause différentes structures de l'activité cinématographique, notamment ces structures capitalistes, avec des discours critiques vis-à-vis des producteurs, des projets de socialisation quelque part de la production, et pour au moins une minorité d'entre eux, une remise en cause des pouvoirs, de l'autorité des réalisateurs. Et en partie en réaction à cette mobilisation, et dans le cadre aussi d'une histoire plus longue de lutte vis-à-vis des producteurs et des scénaristes pour l'appropriation des films, donc pour le statut d'auteur, comme on en parlait tout à l'heure, donc une très large fraction de la profession de réalisateur, donc certains grands noms de la nouvelle vague, mais aussi des grands noms des générations précédentes, Robert Bresson et d'autres, se mobilisent pour défendre le statut d'auteur des cinéastes. Mais à ce moment-là, aussi une minorité de cinéastes, les plus grands noms étant Jean-Luc Godard, Rivette, aux États-Unis plus marginalement Mekas ou Cassavetes, vont remettre en cause le statut d'auteur, remettre en cause la hiérarchie professionnelle et les inégalités sociales et économiques qui l'accompagnent. Et c'est une remise en cause, une contestation de l'auteur et des hiérarchies professionnelles qui va être aussi très rapidement portée par des cinéastes anticolonialistes, féministes, des critiques féministes et d'autres.
Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des cinéastes qui parlent au nom des cinéastes et pour les cinéastes. Comment expliquer que la contestation, elle ne soit pas venue des costumières, des ingénieurs du son ou des monteurs, des chefs opérateurs? Pourquoi ce n'est pas venu du bas et pourquoi ce n'est pas là que s'est cristallisé finalement les enjeux que vous décriviez à l'instant, Jérôme Pacouré, de cette division du travail?
Alors, pour ça, il faut encore une fois remonter un petit peu en arrière. Lors de la première moitié du XXe siècle, en gros, il a pu arriver régulièrement que des opérateurs, notamment au début du siècle, donc ceux qui deviendront les directeurs de la photographie, ou des chefs décorateurs, contestent l'attribution des films à un auteur unique, qu'il s'agisse de l'auteur du scénario ou du metteur en scène. Mais rapidement, des inégalités de reconnaissance se sont creusées entre les métiers, et il est devenu plus rentable, prudent économiquement pour un certain nombre de professions qui sont un peu en position intermédiaire dans la hiérarchie professionnelle, de se valoriser comme au service des auteurs, de faire valoir leur collaboration avec des auteurs et reconnus, quelque part pour un certain nombre de professions, dans lesquelles on peut inclure aussi les monteurs-monteuses, le fait de faire valoir leur collaboration avec des metteurs en scène, c'est une manière à la fois de se distinguer des techniciens qui ne vont pas collaborer avec les metteurs en scène, et de se placer dans les hiérarchies intra-professionnelles, c'est-à-dire de se faire valoir comparaison avec d'autres membres de la profession qui n'ont pas la chance de collaborer avec des metteurs en scène reconnus, etc.
Et puis potentiellement, c'est la mise en valeur d'une compétence aussi, de savoir collaborer, de savoir dialoguer, de savoir que tout peut potentiellement bien se passer avec eux. Il y a un autre acteur dont on a commencé à parler, où la collaboration est très importante aussi au sein du processus de fabrication d'un film. Cet acteur, c'est de toute façon, il y en a beaucoup, mais cet acteur, c'est évidemment le producteur, on l'a dit, avec des conceptions très différentes aux États-Unis et en France. Je voudrais vous faire entendre la voix du producteur indépendant Humbert Balsan au micro de Serge Danet dans l'émission Microfilm, qui a été diffusée le 25 octobre 1987 sur France Culture.
Je crois que le métier de producteur en France est quelque chose qui devrait évoluer, qu'il faut plus de producteurs, qu'il faut plus de jeunes producteurs, que plus il y en aura, mieux ce sera pour le système, plus il y aura d'inventions. Et que les rapports entre les auteurs et les producteurs vont d'une certaine manière changer, puisque les producteurs avaient été un peu relégués dans une position de super comptable, super gérant de l'argent, alors que maintenant, je crois que ce sont des vrais partenaires qui peuvent proposer aux auteurs et aux metteurs en scène des choses et intervenir artistiquement et être en tout cas des partenaires et non pas des ennemis. Puisqu'à une époque, les producteurs étaient plutôt les ennemis des auteurs. Alors, il y a une solitude du producteur évidente, qui est que le producteur, sauf s'il fait un énorme succès, ben, il a beaucoup de temps à consacrer à des relations avec d'autres personnes. Mais s'il est dans un cycle qui est plutôt le mien de films qui ne marchent pas forcément toujours très bien, bon, ben, il y a un boulot énorme de gestion, de rattrapage, à s'occuper de choses financières, qui sont quand même la première chose dont le producteur est responsable. Ce qui fait que le producteur est assez isolé pour ces raisons-là. Bon, il y a le Festival de Cannes qui est ce qu'il est, mais qui, à mon avis, n'a pas du tout cette fonction de rassembler les gens. Au contraire, je veux dire, Cannes est un endroit épouvantable pour
C'est là où on se sent le plus seul.
On se sent le plus seul, c'est abominable, alors que tout le monde est là, le cinéma du monde entier est là.
Jérôme Bacouré, on entendait là le portrait d'un producteur en soi. C'est une question aussi qui se pose, celle de la question de la prise de risque. Dans quelle mesure le producteur a réussi à trouver une légitimité? On parlait des Germaine Dulac, René Clair, qui avaient repoussé, on va dire, cette fonction sous prétexte que ce serait une fonction très, très commerciale et donc potentiellement moins intéressante artistiquement. Est-ce que cette conception-là, elle évolue? Est-ce qu'on se dit, ce n'est pas qu'un sac d'argent qui peut potentiellement s'occuper de la gestion et de la contingence, on va dire? Est-ce que le producteur, progressivement, arrive à se trouver une autre légitimité, autre que purement financière et commerciale?
Bien. Alors, les propos du producteur qu'on vient d'entendre sont pas entièrement spécifiques à la période. Disons que dès la première moitié du siècle, de nouveau, un certain nombre de producteurs se sont fait valoir non seulement comme des entrepreneurs, mais aussi comme des professionnels tout à fait centraux dans la création des films, etc. Et une manière de faire valoir, de prétendre au statut d'auteur ou au moins de faire valoir leur métier, donc c'était de se présenter comme des entrepreneurs qui avaient le monopole de la prise de risque. Et qui, contrairement au metteur en scène et à l'ensemble des salariés, donc seraient les véritables responsables du succès ou de l'infortune de l'affaire, etc. Mais un peu contre ce discours du monopole de la prise de risque, il faut aller rappeler ce qu'a dit Olivier Alexandre tout à l'heure, c'est qu'il y a les metteurs en scène eux-mêmes, comme d'autres professionnels, sont très exposés au risque d'exclusion de la profession, rencontrent énormément de difficultés à se maintenir en activité, et globalement, la prise de risque, elle est assez largement partagée, pas forcément dans les mêmes modalités, par un grand nombre de professionnels. Et là, on parle surtout des professions dominantes, mais ça vaut aussi pour des professionnels moins haut placés dans les hiérarchies de prestige qui, eux-mêmes, ont beaucoup de difficultés à se maintenir en activité après l'échec de certains films.
Et on peut dire dans votre ouvrage, Jérôme Pacouré, que René Clair reprochait aux producteurs d'habituer le public à de mauvaises distractions et d'imposer leur mauvais goût aux auteurs. On peut dire que les choses ont peut-être bien évolué depuis. Olivier Alexandre, on entendait là une forme de solitude aussi de la part de d'Humbert Balsan. Il y a aussi cette idée que Cannes est c'est un endroit redoutable. Vous avez consacré une partie de votre ouvrage à la spécificité de Cannes. Et puis comme le 78e festival de Cannes s'ouvre demain, c'est vrai, c'est un endroit où on voit que les enjeux commerciaux peut-être ont repris le dessus, où il y a une forme de solitude plutôt que de réunion d'un vaste métier.
Bah, un mot déjà sur Humbert Balsan. Nous faites la grâce de réécouter la voix, qui avait un rôle, une place, un charisme très spécifique dans le milieu, moi que j'ai inscrit dans un lignage que je nommais les producteurs artistes. On peut remonter jusqu'à Serge Beauregard, qui était le producteur de la Nouvelle Vague, Daniel Toscan du Plantier, vous savez, ce personnage inénarrable du 19e siècle avec sa moustache très aristocratique et son verbe haut. Humbert Balsan, d'une certaine façon, bien que peut-être moins vocal, mais issu aussi d'une famille aristocratique, la famille Sellière, qui a beaucoup essayé de porter un cinéma différent, mais à travers ses coups, qui a perdu beaucoup, beaucoup d'argent, et il a fini par se suicider. Il était très proche de quelqu'un de très connu de ses ondes aussi, Pierre Chevalier, à qui je consacre un chapitre dans le livre, qui a été longtemps à la tête de l'unité fiction d'Arte, et qui a beaucoup, ils ont beaucoup collaboré l'un et l'autre pour essayer de faire valoir une autre notre culture de l'image d'une certaine façon, avec un cinéma qui vient d'autres horizons, notamment de l'Afrique subsaharienne, du Maghreb, d'Europe de l'Est, un cinéma plus féminin aussi, un cinéma d'art, vraiment, et qui illustre toutes les ambiguïtés du cinéma français d'une certaine façon, c'est-à-dire que c'est une industrie de l'aura à partir du moment où on sait convoquer, d'une certaine façon, d'autres registres, d'autres moyens, un autre verbe pour l'habiller, pour le sublimer d'une certaine façon. Et c'est ce qu'avait fait Albert Balzan, ce qu'avait fait Pierre Chevalier en convoquant notamment assez régulièrement Gilles Deleuze pour essayer de penser, repenser une autre politique du cinéma. Alors la politique du cinéma, elle se joue et elle va se jouer tout au long de la semaine à différentes échelles, à différents étages, hein, parce que le Festival de Cannes, ça se joue à la fois au-dessus quand on monte les marches et en dessous quand on les descend et qu'on va dans le marché du film qui est un univers. Alors, pas du tout paillettes pour celles et ceux qui ont la chance ou la malchance d'y aller. Parce qu'il y a un côté très, très colporteur, vendeur, où parfois on regarde juste 3-4 minutes d'un film et puis on sort. Il y a des stands qui sont bricolés la veille ou l'avant-veille. On est assez loin du glamour du tapis rouge, qui d'ailleurs n'est pas toujours très glamour, hein, ce fameux tapis rouge. Et le Festival de Cannes, c'est vraiment un biotope, d'une certaine façon. On retrouve toutes les formes de cinéma, toutes les formes d'audiovisuel, parce qu'il y a différents acteurs internationaux. Il y a à peu près 40 000 accrédités au Festival de Cannes. Il y en a la moitié qui sont français, donc il y a une représentation très forte. Et cette politique, elle tient à la fois à la présence des institutions et aussi à quel cinéma va être valorisé. Et là aussi, il s'agit vraiment d'actions politiques qui vont de la constitution des jurys, plus ou moins de femmes, plus ou moins de cinématographie peu ou moins visibilisé, quel type de film on va porter, avec une place très particulière du cinéma français dans ce plan de table qu'est le Festival de Cannes, parce que voilà, si demain, chère Aliette, vous devenez sélectionneuse officielle, vous aurez un certain nombre de contraintes quand même assez fortes. C'est-à-dire qu'il faut faire venir les Américains, le cinéma sud-est asiatique, permettre au cinéma d'Amérique du Sud d'être présent, permettre au cinéma d'Afrique et du Moyen-Orient d'être présent. Et là-dedans, sur cette vingtaine de places, vous en aurez 3, 4, 5 pour le cinéma français, où il faut aussi représenter les différentes franges, fractions du cinéma, avec un cinéma de première auteur, d'une certaine façon, ou première autrice, un cinéma plus installé. Alors, généralement, quand vous avez Jacques Audiard qui présente un film cette année-là, vous savez qu'il aura sa place. Et puis, dans cet entre-deux, faire exister un cinéma du milieu, on disait, à une certaine époque. Et ce qui fait que les tickets sont à la fois aussi rares que précieux.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là l'idée d'un univers assez concurrentiel où finalement la recherche de financement occupe aussi une certaine place, et donc la question du budget aussi, de qui l'impose, qui le maîtrise, et donc du système économique plus général qui structure aujourd'hui le cinéma français et dont le comportement de tous les acteurs qui participent à la naissance d'un film dépend. On en parle dans quelques instants.
Thank you. Ah, Ferrand.
Bonjour.
Salut.
Je voudrais pas vous embêter avec tout ça, mais j'ai reparlé avec les Américains. Il faut s'en tenir à ce qui est prévu. Pour faire le film en cette semaine.
Cette semaine?
Vous croyez que vous y arriverez?
Mais vous savez, j'ai peur que ça ne soit pas facile en cette semaine.
Entendez-vous l'écho?
Évidemment, si vous avez besoin de 3-4 jours de raccord en équipe réduite, ça, c'est pour la fin du monde.
Oui.
Mais il faut libérer les acteurs le 31 octobre.
31 octobre.
Ouais.
Eh bien, écoutez, je vais revoir une fois de plus le plan de travail avec Jean-François. Hein.
Aliette Ovine.
Impossible de ne pas évoquer Georges Delerue si l'on parle de musique et de cinéma. Georges Delerue auquel Zoé Svez consacrait un épisode de sa très bonne série musicale il y a quelques semaines et qui est donc l'auteur, là, pas de doute possible, de Grand Choral et que l'on retrouve dans La Nuit américaine de François Truffaut, sorti en 1973, soit le cinéma au cinéma par excellence et dont on entendait à l'instant un extrait. Vous êtes bien à l'écoute de France Culture et nous nous penchons aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho sur la façon dont le système financier mais aussi artistique, culturel du cinéma français façonne le comportement de celles et ceux qui fabriquent les films et qui ont ou non le statut d'auteur. Et nous sommes toujours en compagnie des sociologues Olivier Alexandre et Jérôme Pacouret. Alors nous avons vu comment différentes professions, tout à pied d'œuvre pour permettre à un film de voir le jour, revendiquer le statut d'auteur qui octroie des droits à la fois artistiques et financiers dans une économie particulièrement concurrentielle. Alors dans les années 80, les modalités de financement du cinéma français vont changer la donne. On retrouve là encore le producteur Humbert Balsan en 1987 sur France Culture.
Quand Canal+ s'est créé, ça a été un espèce de ballon d'oxygène pour la production incroyable. Tout d'un coup, une grosse partie de la production française qui s'est vendue à Canal+. Alors il y a eu toutes les bagarres à Canal+ dont on a parlé, mais il faut quand même dire que ça a été aussi une grande chance pour la production cinématographique, puisqu'elle avait perdu des spectateurs en salle, mais d'un autre côté, elle vendait à Canal+. Donc c'était un équilibrage. Entre-temps, donc ça c'était il y a 2 ans, il y a eu la création des Sofica, sous Jacques Lang, qui ont été des moyens de pallier à la crise des distributeurs qui ne pouvaient plus donc donner des avaloirs. Donc tout ça, ça a été remplacé par les Sofica. En 3 ans, on a eu 4 événements très importants économiquement qui ont un peu bouleversé la production. Alors ça oblige à changer les comportements. Je reviens à Lio, c'est un bon exemple. Il n'a jamais fait un film pour la télévision. C'est le premier qui fait. Mais on se retrouve avec 13 millions de francs pour faire 3 fois 52 minutes. Et ben, c'est pas évident qu'actuellement on trouve 13 millions de francs avec des acteurs inconnus dans une équation de film-cinéma. Au bout du compte, on va avoir un film d'Alio de 2h30 qui sera pas très différent d'un film qu'il aurait fait dans des conditions cinématographiques. Donc, on peut être optimiste de ce point de vue-là. Oui.
Un système de financement bouleversé et qui oblige à changer de comportement. Jérôme Pacouret, très concrètement, que change? On a parlé de grands bouleversements du début du siècle et on pourrait notamment revenir au cinéma parlant dans l'absolu qui change le statut d'auteur. Que change l'arrivée de la télévision, le fait que la télévision française gagne en audience chaque jour davantage dans les années 70, qu'on se rende compte de ce phénomène-là au début des années 80, qu'il y a un potentiel manque à gagner pour le cinéma. Que va changer l'arrivée de cet acteur nouveau, que sont les diffuseurs télévisuels, justement pour les auteurs et pour peut-être aussi leur diversité? Est-ce qu'avoir une source de financement nouvelle que sont les chaînes de télévision françaises va changer l'accès possible au métier d'auteur de cinéma?
Bien. Alors l'extrait explique bien le rôle devenu absolument central des chaînes de télévision à partir de cette époque dans l'économie du cinéma français. Vous avez dit que le monde du cinéma et en particulier du marché du travail des auteurs est hyper concurrentiel. Dans cette situation hyper concurrentielle où on trouve beaucoup d'aspirants à la réalisation pour peu de place, certaines institutions et certains professionnels sont tout à fait déterminants dans la sélection des projets de films. Les producteurs, différents professionnels en charge de l'attribution des aides publiques, mais aussi donc à partir des années 80, donc les professionnels des chaînes de télévision qui, pas simplement du fait des stratégies autonomes de ces chaînes, mais du fait d'obligations d'investissement qui ont été imposées par l'État à cette période. Donc cofinance une grande partie de la production cinématographique française. Voilà, ça vaut pour TF1 comme ça vaut pour Arte. Participe en quelque part du recrutement ou de la sélection des projets de films et de la fabrique des auteurs. Voilà, dans des formes très différentes, s'il s'agit d'Arte ou s'il s'agit de TF1.
Olivier Alexandre, sur cette question, et on rappelle que ce qui a été mis en place au milieu des années 80, en 1984, c'est l'idée de créer Canal+, aussi pour soutenir le cinéma français, qui doit prévoir la diffusion de 320 films par an. En contrepartie, la chaîne s'engage à consacrer 20% de son chiffre d'affaires à la production cinématographique, dont 9% au seul cinéma français. On pourrait se dire qu'il y a deux effets possibles. À la fois, plus de moyens, donc potentiellement plus de gens qui parviennent à leur fin, qui parviennent à produire des films, et en même temps, plus de concurrence, donc plus difficile de faire le tri. Donc le tri va se faire de façon très simple, par le nom de l'auteur.
Oui, on peut dire ça. Déjà, faut mesurer ce qui s'est passé dans ces années-là. Hein. Moi, c'est vraiment le paradoxe de base de mon travail. C'est-à-dire que dans ces années, on voit de moins en moins de gens qui vont au cinéma. À partir du milieu des années 1980 jusqu'au en gros le milieu des années 1990 et à l'inverse on voit une augmentation du nombre de films produits.
Ce qui est un paradoxe.
Incongruité absolue et encore aujourd'hui, alors sans m'engager du tout sur la polémique, il y a trop de films, il n'y a pas assez de films, etc. On peut juste constater que aux États-Unis, à Hollywood, on produit 500 films par an. L'année dernière en France, on a produit 300 films dont 180 sont exclusivement 100% français. Alors même que aux États-Unis on a un pays de 340 millions d'habitants qui est un marché mondial, alors qu'en France c'est pas toujours le cas. Donc de fait se mettre en place à ce moment-là tout un tas de choses avec des reconfigurations, des re-hiérarchisations du pouvoir de chacun et chacune. Ça a été dit. Auparavant, les distributeurs par exemple avaient été petit nombre d'enseignes relativement régionalisées et un immense pouvoir sur la destinée des films à travers la question de la production. C'est une profession qui va se trouver bouleversée. Certains ont considéré qu'ils allaient mourir d'ailleurs dans les années 1980 et qui va voir l'émergence de deux types d'acteurs, des chaînes qui produisent, distribuent ou des grands groupes et des indépendants regroupés notamment à travers le dire distributeurs qui du coup eux vont être beaucoup plus alignés sur la vision de l'auteur. On défend l'auteur, on accompagne des auteurs, on repère des auteurs et qui sont d'ailleurs souvent des familles d'auteurs. Donc les conséquences, elles sont effectivement paradoxales parce que à la fois on a une consécration, un renforcement d'une certaine façon symbolique, juridique, un peu économique des auteurs, réalisateurs et réalisatrices. Et en même temps, une concurrence très forte, peut-être moins sur l'entrée, le financement du projet, que sur la sortie et la carrière du film. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on ouvre un peu à tout un tas de nouveaux talents, le
oui,
CNC le fait,
les
télévisions le font, le marché le fait, les grandes maisons le font, on repère des gens à travers le clip vidéo, c'est ce qu'a fait notamment l'écurie Besson, et après on les fait cohabiter dans ce grand fatras qu'est le cinéma français sans toujours garantir leurs conditions de pérennisation. Dans le cinéma, le CNC, ils ont une commission premier film, et ensuite ils ont une commission deuxième et troisième film. Ça s'arrête là, en fait. Ce qui veut dire que dans les institutions, la carrière et la durée de vie, les cycles de vie des auteurs s'arrêtent à trois films. C'est d'une certaine façon l'horizon que s'est donné le secteur.
Donc on peut percer, mais perdurer plus difficilement, si je vous comprends bien, Olivier Alexandre.
C'est un peu le paradoxe. C'est-à-dire que le cinéma français a produit assez peu, alors c'est une généralisation, mais a produit assez peu, ou c'est peu faire de cinéma grand public comme on a aux États-Unis, mais par contre a beaucoup beaucoup d'auteurs. Là où aux États-Unis c'est un petit peu l'inverse, dans le sens où il y a quelques auteurs dont on parle tout le temps d'ailleurs, qui sont maintenant très très âgés, mais produit et reproduit assez peu d'auteurs comme on le fait à la française, et ça tient à un système de production qui est, on peut le dire comme ça, à la française, entre guillemets.
Jérôme Pacouret.
Oui, juste pour rebondir sur deux points. Je pense que si on prend en compte la production indépendante, le nombre de films produits aux États-Unis est plus important que ça. Je pense que je rentrerai un peu plus dans le débat sur la supposée surproduction de films en France. Beaucoup d'acteurs, comme l'Association des cinémas indépendants, défendent le fait qu'il n'y a pas trop de films, mais une trop forte concentration des écrans au profit d'un petit nombre nombre de films et que c'est en partie ça qui crée des phénomènes de sous-exposition de certains films et qui renforce des inégalités entre auteurs qui existent dans tous les champs de production culturelle.
Mais on peut aller plus loin en disant que le cinéma ne se réduit pas à ce qui est validé par le CNC et reçoit un visa d'exploitation. C'est-à-dire que voilà, l'économie des images, elle est bien plus large que ça et qu'il y a un travail institutionnel de définition de ce qui est le cinéma et de ce que n'est pas le cinéma.
Un vaste débat que je vous remercie très chaleureusement à tous les deux d'avoir tenu pendant toute cette heure. Jérôme Pacouret, je rappelle le titre de votre ouvrage, Qu'est-ce qu'un auteur de cinéma, art, pouvoir et division du travail, paru aux éditions du CNRS, et Olivier Alexandre, La règle de l'exception, écologie du cinéma français, aux éditions de l'EHESS.